Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, parmi nous, Eddy, bonjour.
Bonjour à toi.
Alors Eddy, souvent quand s'organise tous en botte, tu passes nous voir pour nous présenter cette programmation à venir qui aura lieu donc le samedi 12 mai à La Baume dans les Hautes-Alpes de 10 à 17 heures. C'est un circuit court des produits biologiques locaux et naturels qui sont disponibles. Ça représente combien de personnes qui vont être présentes à leur stand?
Il y aura une soixantaine de stands différents. Si on peut appeler ça des stands, hein, des présentations d'instruments, du savoir. On montre le savoir des forgerons, on montre l'art, donc des peintres, et puis on montre l'art culinaire, hein, donc tout ce qui peut se rapporter à ce qu'on aimerait bien manger. Bien sûr, c'est uniquement des produits naturels ou biologiques. Après, j'ai entendu local, c'est au plus possible. L'évidence économique, elle ne dit pas que c'est local, en vrai. Ça, c'est un langage politique. Après, tous en botte, ce sera la troisième édition. On est très, très heureux déjà de pouvoir venir à Radio Diwa, radio qu'on est un certain nombre à écouter de l'autre côté du col, donc on vient Internet. Et puis, radio qui nous plaît par son indépendance. Et sa liberté en général, voilà.
C'est une journée qui commencera à partir de 10h, je disais. Ça se prépare comment? Il y aura une inauguration? Il y aura un comité d'accueil?
Alors, Tous en botte, c'est un ensemble, un collectif de personnes. Il y a tout un tas, une vingtaine de personnes. Et puis on se dit, on va essayer de continuer dans l'action qu'on s'est fixée. C'est-à-dire faire connaître aux gens d'autres manières de s'alimenter, faire comprendre aussi qu'il y a peut-être certains problèmes qu'on pourrait régler facilement en se parlant, en s'écoutant. Voilà. Donc on est peut-être un peu utopiste. Donc c'est une petite 60 personnes. C'est financé par des... Il y a 3 personnes en principal qui financent, plus tout un tas de petites autres. Donc les gens sont accueillis, il n'y a pas de frais pour la personne accueillie, elle est invitée en quelque sorte. Et pour le collectif, c'est très important. Elle est invitée, elle se met à un endroit qu'on lui a désigné, bien sûr, mais il n'y a pas d'échange d'argent à ce moment-là. Donc ça permet peut-être d'avoir une autre approche des choses qui n'est pas la réalité, hein. On est bien... D'accord, dans une foire, on paye au maître, etc. Il y a des frais d'organisation, etc. Ce sont des citoyens qui font partie des COP ou d'autres associations qui ont un peu plus de moyens et puis qui disent ça me plaît, allez hop, on met un peu des sous. Donc voilà.
Pour cette année, vous organisez quelques ateliers autour de, par exemple, de chaque. Exposant proposera des ateliers.
Alors oui, on a une petite charte à l'interne. Hein. Tous en blotte développe les échanges au sens économique, au niveau du partage des savoirs, de l'éducation à la culture, par la découverte de produits alimentaires et leur transformation, sans oublier le voyage du culinaire à l'esthétique. Ça, c'est la base. Donc les gens rentrent dans cette base... C'est une base mentale, on va dire cela comme ça, et qui se réalise avec des individus qui réalisent des objets ou qui font des produits ou qui ont des savoirs un peu particuliers. Par exemple, je pense à Daniel Requejo qui est fondeur de bronze. Un fondeur de bronze, il va nous réaliser une œuvre devant les gens qui seront là ce jour-là. Il y en a 60 comme ça, donc je ne peux pas faire un... Mais ce sont... à chaque fois des personnes individuelles, fortes, Elles ont toutes une activité qui, on va dire, forte. Parce que bon, pour être couleur de bronze, tout le monde sait ce que c'est, j'espère. Mais couler du métal, savoir le fondre, savoir l'assembler à plusieurs métaux pour avoir quelque chose de stable et mettre cela dans un moule qui auparavant a été fait de manière artistique, c'est vraiment assez complexe. Et nous pourrons voir ça en direct. Donc c'est un plaisir qu'on ne peut pas se payer et qu'on ne peut pas, ou alors on aime la fonte et on se paye un stage avec les fondeurs. Voilà.
Il y aura différentes propositions d'exposants par rapport à la création et recyclage. Ça, ce sont des productions que l'on retrouve souvent à Tous en Botte. C'est récurrent. On peut en présenter quelques-uns, par exemple.
Le recyclage. Alors le recyclage, déjà, il sera le fait sur Tous en Botte. C'est une foire zéro déchet. Voilà, on a un peu regardé ça de près. Donc le recyclage, il est déjà là. Tout le monde va participer à sa manière, à ce fameux recyclage. Un petit exemple, en ce moment, on cherche des assiettes usagées. Hein, toutes, si elles ne sont pas pareilles, on s'en moque un peu. Mais les gens qui viendront manger, ils auront une assiette en vrai qu'ils pourront rincer dans un bac avec une lessive, une petite balayette pour faire ça. Et le suivant, il arrive et il peut se saisir de l'assiette plutôt que d'avoir des trucs en carton, des trucs en plastique, des choses ainsi faites. Donc beaucoup de choses vont être autour de cela. Donc il est déjà là, le recyclage. Après, dans les gens qui présentent des activités, alors est-ce que par exemple, un tag, c'est une ordure. En ville, les gens, la maison, elle est taguée, ben c'est comme une ordure. Or, à la foire, il y a Pascal Rey qui sera là, qui est un photographe lyonnais. Et lui, il photographie les tags. Donc, il va vous les présenter dans des cadres. Alors, dans le sens du collectif, d'une ordure, on a fait quelque chose qui peut être chez soi. Donc, c'est sûrement pas une ordure. On a recyclé quelque chose quelque part. Alors, on comprend les gens qu'on les tague sur leur maison. Là, c'est pas bien non plus. Mais on va passer là-dessus. Donc du recyclage de ce type, on l'a en art, on l'a dans le cuir, hein, les gens qui réparent les chaussures, les ceintures, etc. Cette année, on ne l'a pas en habit, puisque Chaka, elle est pas disponible. Elle faisait des habits de récup, des nouveaux habits avec des habits de récup. Voilà. Il y a Cellulose Teinte, alors lui, il devait venir, il fait des meubles en carton. Mais il faut voir que le 12 mai, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la fête des potiers de l'autre côté. Donc cette année, on est un peu en retard d'une semaine. Et donc, on tombe avec plein d'autres choses. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne pourront pas être là. Donc, au lieu d'être 63, on sera que 60. Mais bon, voilà l'explication sur le recyclage. J'en oublie, bien sûr. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'un cueilleur est un recycleur? Un recycleur de nature. Voilà. Hein, mais c'est aussi un recycleur. La foire, elle veut faire en sorte que les gens ils comprennent bien qu'il ne peut y avoir que des échanges au niveau de l'esprit. Et il n'y a pas de guerre idéologique. Parce que quand on fonctionne dans le réseau bio, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont du domaine idéologique. Et nous, on est plutôt des pratico-pratiques. Voilà un peu la réponse, Yves, sur le recyclage. On le mène tous les jours.
Lors de cette journée, il y aura également des productions de différentes plantes aromatiques, par exemple, du travail de vigneron aussi. Enfin, tout un panel d'agréments culinaires, je dirais.
Oui, et puis c'est que de l'exception. Hein. Alors en plus, il y a pas mal de gens du Diwa, parce qu'on a on a des relations dans une grande ceinture de 50 km autour de nos villages. Donc le Diwa, il est inclus. C'est un pays qui ressemble au Bech, le Haut Diwa, hein, qui est beaucoup plus développé au niveau de ce qui est naturel, hein, ou biologique. Et là, il y a des cueilleurs, il y a des gens qui font du vin sans sulfite, qui se servent de chevaux pour passer dans leurs vignes. Il y a des gens qui font des confitures. Enfin bon, j'en passe. Il y a des gens qui font des yaourts de brebis. Ces gens-là, une partie d'entre eux, ils sont avec nous. Et l'autre partie, c'est des gens plutôt du sud du département, enfin du sud de notre petite région, hein, donc du Buech vers le Laragnais, et un peu vers le Gapençais. Un peu le système, il lie trois types d'activités, de l'associatif, de la production agricole et de l'artiste. Et ça, c'est ce dont a besoin un tout petit pays pour que les gens viennent. À partir du moment où on arrive à voir ces trois choses un peu, ça attire les gens. Voilà. Quand il n'y en a qu'une, on fait que du bio, ben on fait que du bio. Hein. Les gens ne viennent pas que pour manger. Il faut aussi qu'ils puissent se cultiver dans l'environnement où ils viennent. Voilà. Donc on est dans des vallées un peu reculées et on mène notre action depuis maintenant une dizaine d'années. Et ben disons qu'on n'est pas mécontent quand même.
Pendant cette longue journée, il y aura des propositions d'intermèdes musicaux. Hein, il y aura quatre artistes, en tout cas, qui se présenteront, ou du moins quatre compagnies qui se présenteront pendant cette journée. On peut en présenter ?
Oui, Dafra Keta, alors, c'est quelqu'un qui danse, qui va amener des instruments du Burkina, qui est... Sa vie est consacrée à la danse et à la musique. C'est une famille de musiciens burkinabés qui va être là. Donc, elle a son petit stand, elle fait ses petites choses dans son coin. Il n'y a pas de musique prédominante. La musique, elle est dans un coin de... Puis après, elle se déplace, elle va à un autre endroit. Donc, elle n'est pas forte, elle est entendable par tous. Elle ne couvre pas le bruit de la vie et des gens qui parlent et qui discutent sur les stands. On va avoir des troubadours du 12e. Alors, ils ne chantent qu'en catalan. Alors, je ne sais pas si on dit chanter au XIIe siècle ou si on dit chantonner ou autre chose, je ne sais pas trop. On va avoir aussi une Emma. Alors, elle ne chante pas, elle fait plutôt des marionnettes. C'est quelqu'un qui fait des marionnettes. On pourrait dire pour les enfants, mais ça ne veut pas dire que les adultes, hein, ils sont exclus de cette chose-là.
Ce sont des artistes du local aussi, ou alors vous les avez trouvés du loin ?
Rosa Trobadoresca, c'est une troupe de troubadours médiévaux qui rayonnent sur toute la France, voire en Europe. Donc ça, c'est parce qu'il y aura plusieurs troupes de médiévalistes présents à cette foire, sachant que certains médiévalistes font partie des réseaux du Buech. Puisqu'avant, ils y habitaient, puis ils ont déménagé, puis ils ont créé une troupe ailleurs, et du coup, ils sont toujours avec nous. Voilà. Donc, on va avoir que des gens du XIIe siècle. Hein. Eux auront à charge de se battre, j'oserais pas dire ça, mais de nous montrer comment on faisait ce genre de choses au XIIe. Ils auront à charge aussi de nous faire manger la partie viande. Donc, ça sera cuit comme au 12e, hein, avec du lard et tout ça, de cochon pour saler sur les poulets et les sangliers. Et puis, ils nous feront aussi peut-être une préparation à base de pois cassés. Bon, c'est typique du 12e siècle. Donc, eux, c'est très particulier. Ce sont des combats, des démonstrations. Ce sont des puristes. Ils travaillent avec le CNRS. Donc l'habit, il est authentique du 12e, autant par la soie utilisée que par le cardage de cette soie, que par la couleur utilisée, que par la forme, etc. Ce sont des maniaques là-dessus. Donc ils montent un petit camp et on peut les voir ben, vivre là-dedans, dormir comme on dormait, etc. Ils seront une quinzaine. Donc on est très très contents de les accueillir. Il y a des gens d'Albi, de Carcassonne, ils viennent de loin.
Juste une parenthèse concernant ces animations autour du médiéval. L'année dernière, il y avait, enfin, celle de la Toussaint-Botte précédente, il y avait donc des reconstitutions culinaires avec des recettes de l'époque, avec les outils de l'époque. Et puis, à côté de ça, donc cette cuisine faite par je ne sais pas quelle femme, comment s'appelait-elle ?
Géraldine.
Géraldine. Et puis, à côté de ça, il y avait le campement militaire. Entre ces deux phases, ou ces deux faces, il n'existait rien d'autre à l'époque.
Entre le militaire et...
Et la cuisine, côté cuisine. Il y a les troubadours, mais culturellement, il existait. Est-ce que c'était une époque guerrière plus que culturelle ?
Je suis quand même un peu inculte sur cette époque, sur le 12e. Moi, je le vois d'un œil rose. Alors, des troubadours, effectivement. Mais les troubadours, c'était chaud pour les troubadours à l'époque. On pouvait vite se retrouver à trépas. Voilà, donc j'ai pas une culture suffisante pour répondre à ta question sur cela. Bon, il y avait la vie de tous les jours, mais bon, les gens, c'était pas du tout fait comme aujourd'hui.
Après, il y aura tout au long de la journée, je suppose, des propositions pour se restaurer en bio.
Oui.
Alors
oui,
ça, vous avez une proposition de plusieurs types de préparation.
Ben, il y a deux. Cette année, on a choisi de faire... De faire ça. D'un côté, on va manger, on peut manger, il y a un prix, c'est que du végan. Et puis on comprend les gens qui mangent de la viande. Alors ceux qui voudront de la viande préparée par les médiévaux, ils mettront un supplément pour avoir de la viande. Donc ils auront un repas comme d'habitude, mais il est un peu à l'envers, hein. Donc c'est à base vegan. Ça veut pas dire on n'est pas des gens, il peut y avoir des œufs, hein. Voilà. Il faut que tout le monde soit satisfait. Mais la base, c'est du légume. Hein, du bon légume avec des protéines, des lentilles, des pois cassés, plusieurs sortes de lentilles, bon, etc. Je n'ai pas en tête, mais je crois qu'il y a 4 ou 5 sortes de possibilités, de choix, au niveau du repas principal, plus cette viande. Et puis que si on veut, après un dessert, hop, on va juste à côté, et puis là, il y a Nomad Squad. Eux proposent des cafés, tout ce qui est thé et dessert. Alors attention, c'est café avec la vraie machine. C'est des gens qui font les festivals, donc c'est un petit peu différent d'habitude, et tout est bio, bien sûr, il n'y a absolument rien qui n'est pas bio. Et puis ensuite, si encore on a encore envie, il y a deux possibilités de manger des glaces, à base de plantes. Donc on dit des glaces véganes parce qu'elles n'ont pas de lait. En fait, c'est des sorbets. Hein. Voilà. Donc, il y a deux personnes qui font ça. C'est très, très bon aussi. Et puis, il y a la bûche mobile qui est sur place. Donc, le camion qui fait les tournées dans les campagnes, il est là, il est installé. Il y a tout qui est assorti. On peut faire ses courses si on veut. Et puis, il y a tous les producteurs qui vendent leurs produits. Du pain, du fromage, du vin. Bon, j'en passe. On peut s'acheter son produit directement ou on peut venir avec son pique-nique. Tout est possible. Il n'y a pas de... Mais on peut manger, bien sûr.
On va passer à l'élevage aussi. Il y aura des personnes qui présenteront leur production.
Là, ça nous fait un peu rire tous. On a beaucoup ri avec l'élevage parce qu'on voulait inviter une association qui s'occupe de protection de la nature. Et vous savez que dans notre région, il y a des loups. Donc à cette occasion, comme c'est très détendu, on peut mettre des gens qui d'habitude se disputent. En présence l'un des autres, il y a le nombre qui fait que tout est calme. Et ils n'ont pas voulu venir. Tout simplement à cause de cette question, voyons les éleveurs, ils sont contre l'élevage. Donc voilà, ça nous a beaucoup fait rire, hein. On s'est dit non, faut pas être fermé comme ça. Donc il y a des éleveurs qui sont là. Il y a Jean-Marie Bélien, lui, c'est pas un élevage qu'on mange, il fait des ânes. Donc il élève des ânes, c'est tout. Et puis, le deuxième, c'est des petits moutons. Voilà. Alors, c'est vrai, on peut penser après et être plus ou moins sensibilisé à manger de la viande, comment on abat les animaux, etc. Ça, on ne l'a pas rentré dans notre réflexion ce jour-là de Toussaint-Botte, parce que Toussaint-Botte, dedans, il y a tous. Alors, bon, tous, c'est aussi des gens qui peuvent élever, parce qu'il y a un élevage pastoral. Et puis, des gens qui peuvent défendre des animaux. Mais bon, ceux-là n'ont pas entendu. Peu importe. Yeah.
Tatiana. Kana fo wali dema osuluba. Kana fo wali dema nogoleba. Eta ye bolola eto la bablo. Jala kopora ruwe.
Avec nous au téléphone, Bernard Astruc, qui participera donc à cette journée de Tous en Bottes. Et donc, vous, vous êtes aussi agissant au sein de l'agronomie et vous êtes vigneron. Et également, vous êtes membre de Bion Consommateurs de la région PACA. Et puis, vous, donc, vous allez vous présenter un peu plus.
Oui, absolument. Écoutez, on va dire déjà que je suis agro-bio-socio-écologiste. Voilà, je l'ai défini comme ça, je vous dirai pourquoi après. Depuis les années 70, donc ça va bientôt faire un demi-siècle, n'est-ce pas? Et je pense que je tenais à peu près le même discours à la virgule près il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on voit que les choses sont en train d'évoluer. Ça s'accélère même très fortement depuis 2 ou 3 ans. On est sur des données chiffrées qui sont... très évocatrice du phénomène. Alors donc, la mouvance agroécologique et plus spécialement depuis 2008 me consacre beaucoup à ce qu'on appelle la consomme-action, hein, c'est-à-dire la responsabilisation des consommateurs d'une manière, on va dire, écologique, dans leur acte de consommation quotidien. Voilà, donc ça c'est important, et des manifestations comme Tous en Bottes, elles sont déterminantes pour l'évolution, parce que, en plus du fait que ça donne l'occasion à tous les acteurs de se rencontrer. Ça permet aussi d'éveiller la conscience de pas mal de visiteurs qui viennent pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, quoi. Et ce qui se passe, eh bien, c'est aujourd'hui dans la société, c'est carrément catastrophique. Donc, heureusement, dans mes conférences, je dis toujours que la situation est catastrophique, mais qu'elle n'est pas du tout désespérée. Parce qu'on a les solutions, on a cette grande chance d'avoir les solutions à tous les problèmes qui se posent. C'est juste une question de volonté politique et d'engagement citoyen.
Alors pour ça, vous serez présent lors de cette journée avec une longue table, comme chaque fois, avec tout ce qu'on peut trouver en presse qui dénonce certaines inéquités ou alors injustices et voire même aberrations.
Oui, on va dire que ce qu'on dénonce surtout, c'est l'incohérence du système. Bon, mais elle n'est pas innocente, hein, cette incohérence. D'un côté, il y a le discours, de l'autre, il y a les faits. Et si on regarde, par exemple, le Grenelle de l'environnement, hein, 2008, qu'est-ce qu'on a décidé? Deux choses. Réduire les pesticides de 50% en 10 ans, hein, 2008-2018. Alors, qu'est-ce qui se passe? 10 ans après, nous y sommes. Non seulement on n'a pas réduit de 50%, mais ils ont augmenté de 5%. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la réalité. Ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, on consomme 68 000 tonnes de pesticides, voilà, dans l'agriculture. Et l'autre indication, c'était on avait prévu 20% de bio dans la restauration collective. Et qu'est-ce qui se passe 10 ans après? Eh bien, on est péniblement à 4%, vous voyez. c'est la réalité.
Voilà, j'ai une question à vous poser. Oui. Les chiffres que vous donnez, on peut les trouver sur quelle source?
Ah, ben, écoutez, vous les avez, par exemple, à l'agence bio. Vous les retrouvez à l'agence bio. C'est l'agence officielle française. Vous tapez agence bio. Chacun, les auditeurs peuvent y aller directement aussi. Et puis, vous les retrouvez aussi à la FNAB, ça veut dire Fédération Nationale des Agrobiologistes. Vous avez aussi là des indications chiffrées. Mais principalement, c'est l'Agence Bio. Voilà, qui donne tous les éléments. Vous pouvez retrouver tous les agriculteurs. Mais je vais vous donner aussi deux, trois autres chiffres parce qu'ils sont importants. Aujourd'hui en France, il y a environ 37 000 agriculteurs qui sont en agriculture biologique. Sur 1 700 000 hectares, et ces agriculteurs démontrent, s'il était encore besoin, qu'on peut cultiver sans utilisation d'aucun produit chimique dans toutes les filières, parce que c'est ce qu'ils font. Donc vous voyez, c'est assez étonnant quand on entend le président de la République qui dit « Nous, en France, on va réduire à 3 ans la reconduite du glyphosate, ou plus rapidement, dès qu'on aura trouvé les alternatives. » Voilà exactement ce qu'il a déclaré. Et nous lui avons fait un communiqué en lui disant « Bonne nouvelle, monsieur le Président, les alternatives, elles existent déjà dans toutes les filières, hein, puisqu'il y a 37 000 agriculteurs qui le démontrent tous les jours. » Donc vous voyez, il y a le discours d'un côté, il y a la réalité de l'autre. Si on veut, on peut arrêter très vite là avec le glyphosate. Et on développe une campagne en ce moment qui s'appelle « Zéro phyto, 100% bio ». Voilà, c'est un objectif. Et cet objectif, on essaye de le mettre en place en priorité sur l'île de la Réunion, qui pourrait devenir le premier département français avec zéro phyto, plus aucun traitement chimique, et, ni intrant, et 100% de bio. Et dans cette île, qui est une île magnifique, avec une biodiversité exceptionnelle, qui est déjà atteinte à 30% par la monoculture intensive de la canne à sucre, hein, qui utilise beaucoup de glyphosate, eh bien, on est parti pour essayer de convertir tous les agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est très encourageant, parce qu'il y en a déjà 250 qui sont en bio sur 900 hectares de l'île. Mais l'indice, le marqueur le plus important, c'est que il y a un agriculteur sur deux qui s'installe en bio aujourd'hui. Voilà. Donc, vous vous rendez compte, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que agriculture biologique montre que c'est l'avenir et c'est même le présent déjà.
Vous avez un site internet, oui. Je suppose.
Absolument.
Vous pouvez peut-être l'indiquer aux auditeurs.
Oui, alors, donc, il y a un site qui s'appelle oasis-reunion.bio, très facile, et je le donne en premier parce que tous ceux qui veulent soutenir ce projet, évidemment que la Réunion, ce sera le premier département et les autres suivront, donc c'est très important de soutenir cette action sur l'île de la Réunion, qui est la France, hein, bien sûr. Donc oasis-reunion.bio, et on peut aller signer le manifeste, et aussi même soutenir un peu, à partir de 5 euros, on peut soutenir le projet, pour ceux qui veulent s'y impliquer davantage. Ensuite, on a un autre site qui est consommateur pas cobaye, consommateur pas cobaye, tout attaché, tout au pluriel, .com/2, voilà. Et là, on a la campagne OGM Transparence, qui est une campagne très importante. Nous voulons, nous exigeons, et nous avons une pétition en cours, donc il faut aussi la signer, là. Et nous sommes en train d'interpeller la Commission européenne, car nous exigeons que tous les produits alimentaires issus d'animaux nourris avec des OGM, en France, voire en Europe, en tout cas, en France, c'est 9 animaux sur 10. Vous vous rendez compte? 9 animaux sur 10 qui sont nourris avec des OGM et personne ne le sait vraiment. Et nous, on veut que ces produits, ils mentionnent soit nourris aux OGM, soit issus d'animaux nourris aux OGM. Voilà. On exige que ça figure sur tous les conditionnements. Et c'est un combat extrêmement important parce que, pourquoi? Parce que si on l'obtient, ça va faire chuter brutalement la consommation de tous ces produits, hein, animaux, nourris avec des OGM. Ça va augmenter l'élevage en bio, évidemment, puisque le dixième animal, qui lui, il est en bio, hein, c'est pour ça qu'il n'a pas de nourrissage OGM. Voilà, c'est des actions très importantes qu'il faut conduire, et je vais vous donner aussi un numéro de téléphone, c'est parce que le contact se fait facilement, c'est 06 70 51 06 48 06 70 51 06 48. Voilà, comme ça, tous les contacts peuvent se faire et nous cherchons des correspondants un peu dans tous les départements, toutes les localités. Tous ceux qui veulent relayer sont les bienvenus. Donc, ils peuvent se manifester.
Eh bien, merci Bernard Astruc donc, pour votre annonce. Et au plaisir de vous rencontrer donc, à la Baume le 12 mai.
Absolument. On donne rendez-vous, ce sera à partir de 13h30, la conférence. Alors, la journée, elle, c'est de 10h. Mais nous, on fera cette conférence, débat avec un film à 13h30. Et il y a une bonne restauration bio, mais ça, Heidi va l'indiquer. Et on pourra même manger en écoutant la conférence. Hein. Ça ne nous dérangera pas du tout. Voilà. Donc, à très bientôt et merci.
Au revoir, merci. Bonne fin de journée. On peut parler de construction. D'ailleurs, comme depuis le début, il me semble que les brouettes en freinent. Ce sont deux frères, hein, je crois,
c'est
à l'origine, qui avaient œuvré pour produire une brouette pour leur mère et qui se sont plus à en créer d'autres et donc à en produire. C'est une entreprise qui s'est développée.
Oui, qui était hors pierre. Mais ils font pas que ça. La brouette, c'est un peu... c'est l'histoire, un peu. Hein, ils font des meubles, des cuisines, des choses comme ça, en bois locaux si possible. Puis c'est des vrais artisans. Donc évidemment, c'est cher, mais alors c'est vraiment bien fait. Donc si on revient sur la foire, un des aspects de la foire, c'est de développer la beauté. Alors elle peut être intellectuelle, mais elle peut être aussi dans des objets. Donc avoir des gens qui ont du goût dans leur art et qui font de belles choses. Voilà. On en fait moins, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont belles. On peut voir aussi cela comme ça.
Et puis je vois aussi la fabrication de meubles, ça c'est une nouveauté?
Non, Thomas Vitran, lui, il fait des meubles, il utilise pas mal de mélèzes.
Voilà, mais je n'avais pas souvenir de...
Non, non, il n'était pas là.
Ah oui, c'est ça.
Non, non, il y a des gens qui n'étaient pas là, bien sûr. Donc, Mélèze, c'est une filière qui devait être redéveloppée il y a une trentaine d'années dans les Alpes, puis qui apparemment, ça ne s'est pas vraiment redéveloppé. Mais c'est un bois exceptionnel, voilà, qui est beau aussi.
C'est quel type de bois, quel arbre?
Mélèze, c'est un arbre avec des épines.
Un résineux, donc.
Mais elle tombe.
Oui.
Voilà, c'est le sol qui est comme ça. À un moment, elle tombe. Il fait très belles fleurs. Voilà, le Mélèze.
Et puis, il y a une présentation aussi de cuisine solaire.
Alors, la cuisine solaire Solario, qui fabrique pour, en Afrique des... Donc, ils ont mis au point un four solaire. On en a un exemplaire, on l'utilise. Et je ne pense pas qu'ils seront là. Mais il y aura le four qui est là. Ça monte à 1200 degrés. C'est facile à manipuler et une partie de la cuisine sera cuite ainsi. Hein, donc ça c'est le peut-être l'évolution la meilleure de toutes. Plus aller chercher du bois, plus pour ceux qui sont en Afrique, c'est un problème. Et puis ici, pas utiliser du gaz liquéfié, qui est du pétrole liquéfié bien souvent, pas utiliser d'électricité alors que on a ce qu'il faut en l'air. Oui, Solario, toute petite boîte. Comme les petites boîtes, c'est toujours un problème. Les petites boîtes qui font des inventions, après, c'est pas bon pour elles, souvent.
Là, on va aborder donc les conférences. On vient d'entendre Bernard Astruc, agronome vigneron, sur l'agroécologie. Et puis, il y aura aussi donc François Aprosi-Touilleux, pourquoi manger de la spiruline, et qui est producteur lui-même de cette substance. C'est lui qui était déjà présent.
Absolument.
Avec son petit laboratoire pour montrer la fabrication de la spiruline. Et qui sera là de nouveau.
Et voilà. Voilà, cher François. Donc lui, il est à Orpierre, qui est aussi un bel endroit. Et il a fini de monter son entreprise. Ça fait quelques années que ça dure, parce que c'est pas évident. Et voilà, il nous propose une spiruline. Il nous expliquera à 11h30, une petite conférence, pourquoi on mange de la spiruline, à quoi ça peut servir, d'où ça vient. Enfin bon, un peu une histoire qui peut intéresser. Ça peut être très intéressant, suivant qui on est et suivant ce dont on peut souffrir aussi, éventuellement.
On va aborder donc les associations qui sont en corrélation avec cette coopérative du Bouèche. On peut en citer quelques-unes et même en présenter, par exemple.
Là, c'est plus... On est dans un autre domaine. On arrive plutôt sur le handicap. Il faut savoir qu'il a été créé une association qui s'appelle Oreille. Mais c'est par... Ça commence par AU, c'est le nom de la montagne qui est à côté de la Baume, qui accueille des gens autistes ou autres, mais plutôt autistes, et on ne mange que des aliments bio, et on vit dans un éco-gîte. Voilà. Donc on a développé un projet là-dessus, et ces gens, ils sont des nôtres maintenant depuis très longtemps. Donc il y a l'association Oreille, qui fait partie d'un collectif des organismes de tourisme adapté, donc national. Le quota qui est chargé de surveiller ce qu'on propose aux gens, parce que on s'occupe de gens, donc il faut qu'il y ait un regard extérieur. Il y a ces âmes autisme qui est un peu connu aussi, ils ont des établissements. Et puis il y a des gens très 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 proches, c'est Haute-Baume Nature, ou alors là c'est plutôt une association qui défend la nature, mais avec une cause particulière, ce sont les grandes éoliennes industrielles. Et l'autre raison la plus répandue, c'est que la beauté, il y a des endroits où c'est beau, il faudrait essayer de le préserver au maximum. De beaux endroits, les gens viennent voir, ils viennent, c'est beau, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors que ce genre d'éolienne, bon déjà techniquement, financièrement, c'est pas normal que notre État il se fasse plumer comme ça, on va le voir à l'envers. Parce que ça produit quasiment rien du tout pour des dégâts en fait très importants sur la nature et le milieu naturel environnant. On peut faire autrement avec des petites éoliennes, etc. etc. Hein, ben on fait pas, on va pas discuter trop de ça. Faut venir à la foire. On peut parler avec ces gens et puis avoir de bons échanges, hein, c'est certain.
Il y aura aussi Village des Jeunes. Alors ça, c'est Village du Fay et Village de Vaunière. Ça se situe où?
Deux entités. L'association s'appelle Village des Jeunes. Puis à l'intérieur, il y a deux lieux de vie. Donc un qui est le Village de Vaunière, où cette association, elle fait de l'accueil de personnes diverses et variées, le tourisme lambda, mais aussi de public particulier. Alors, ils ont des petites maisons, c'est dans la montagne, autour on essaye de faire le jardin, etc. Avec beaucoup de jeunes internationaux. Hein. Et puis le deuxième entité, c'est le Fay, qui est un autre petit village. Là, c'est plus sur le spectacle. Voilà, donc c'est des gens, c'est l'international. Des gens plus jeunes qui viennent des pays de l'Est, d'Afrique, un peu de partout, pour un projet. Voilà.
Voilà, après, il y a atelier yoga.
Oui. Non, et puis il y a quelqu'un de très important aussi, je vais le citer quand même, c'est Marco Panseri. C'est l'habitat partagé. Donc on en parle très peu souvent de ça. L'habitat partagé, c'est d'un volume, de pouvoir l'optimiser au maximum en gardant un confort pour l'habitant. Donc ça veut dire que ça réduit les surfaces nécessaires. Dans une maison, il y a des endroits où on ne s'en sert pas vraiment. Ça réduit les coûts pour se loger. Et puis ça fait aussi de l'échange entre les gens. Hein, donc Marco Panseri, son association est à Rabou, au-dessus de Gap.
Et puis, on en a déjà parlé, hein, Mike Carpentier, je ne sais pas comment on dit.
Ouais,
avec l'association Historia Meridionalis, voilà, avec des ateliers de cuir, le campement et les costumes du XIIIe siècle. Voilà, on en avait déjà parlé donc tout à l'heure. Et là, on arrive ensuite tout ce qui concerne livres et arts. Hein. Alors, on peut peut-être nommer chaque intervenant qui reviennent aussi.
Ben, ce sont des gens qui nous font l'amitié de revenir, hein. C'est déjà ça. C'est qu'ils ont dû apprécier, puis nous on aime bien quand même. Donc Jacques Mélin, qui est un écrivain, qui vient de sortir un nouveau bouquin sur le Pérou. Xénoïde est connu sous Éric Ferrier, Fort Calquier, dessinateur émérite. C'est lui qui a fait d'ailleurs cette année l'affiche, qui a dessiné l'affiche avec Garage L. Thomas TGM, il est illustrateur de bande dessinée, il sera là que l'après-midi, il habite sur Orpierre. Woodwarf, alors lui il n'est pas possible, il faut venir, il fait de la BD mais pas que, hein, mais vous verrez. Guillaume Lehaudet, il est aussi BD-man, lui il fait des BD, il a une petite association, et son association sera là aussi et proposeront des maquillages naturels aux enfants, hein, à base de produits naturels. Rémi Dumont, qui était sous réserve et qui ne sera pas là parce que c'est un auteur lyonnais. Il a une boîte qui s'appelle Tutela Prod. Je vous encourage à aller voir Tutela Prod. C'est très particulier. Ensuite, nous avons Denis Le Bioda, qui n'est pas un écrivain ni un dessinateur, c'est un photographe. Et là, on lui a demandé d'être parmi nous. Il était déjà là il y a 3 ans, et de nous présenter des photos de visages de paysans. Alors, paysan, c'est un mot noble, hein, bien sûr, et de paysanne. Et puis, le dernier de cette bande, c'est Cyril Noyalet. Lui, c'est un monsieur qui fait des films, donc on peut dire réalisateur. Le dernier, il est en voie de montage. Donc il nous en parlera. C'est sûr, au début, ça s'appelait les totems, mais les totems, c'est vulgaire avec certains sens. Donc en fait, on voit un guérisseur qui reçoit les gens atteints de quelque chose, croit-il, hein, la personne va voir le guérisseur, et il se sert de statuettes. Et Cyril Noyalet, ça fait des années qu'il est sur ce projet-là, et il a enfin eu l'autorisation par le guérisseur de tourner pendant qu'il y avait des soins. Voilà, ce qui est rare, ça c'est vraiment rare et cher. Hein, voilà. Donc il sera là aussi parmi nous.
Et pour faire perpétuer cet événement, il y aura la presse et la radio. Donc, on peut présenter le Ravi.
Le Ravi, ça fait bien longtemps que le Ravi fait partie de nos. De la presse qu'on présente dans les petits points COP des magasins. Il y a le Ravi toujours là. C'est très important parce que d'abord, on se le paye. Il n'y a pas quelqu'un qui fait de la publicité. Alors, on n'est pas masochiste, mais on se le paye. C'est-à-dire qu'il correspond à un peu nos attentes, à notre vie. Voilà, je dirais ça du Ravi. Pas simple. Il a réussi encore cette année à avoir l'argent nécessaire pour finir l'année. Voilà. Donc, vive le Ravi, lisez le Ravi.
Il subvient comment, justement, le Ravi ? Par cotisation, adhésion ?
Avant, il y avait un peu des institutions qui donnaient des sous, mais comme le Ravi, il a l'air un peu niais comme ça, alors les gens, ils croient qu'on se fout de leur gueule, mais le Ravi sort des articles pas possibles, sur des histoires pas possibles, qui concernent vraiment les citoyens, sur des magouilles, des choses qui sont... C'est pas nommable. Donc, quand une collectivité, elle donnait des sous, elle les donne plus. Voilà. Donc, du coup, le Ravi s'est retrouvé dans une position... Pourtant, c'est un organisme de presse. Voilà. Mais eux, ils n'ont plus rien. Donc, pour trouver des sous, c'est des couscous bang-bang, est-ce qu'on appelle ça comme ça. Les gens font un don et puis on se réunit, on mange. Voilà, pour que le journal continue à nous ravir.
Et donc, pour terminer, il y aura RDWA qui opérera donc cette captation de journée et qui sera mise à l'écoute dans les semaines qui suivront. Voilà. Eh bien, Eddy, on peut peut-être parler du site de Tous en Bottes pour pouvoir vous contacter.
Oui, bien sûr, Tous en Bottes. Il y a les petits fascicules, les petites affiches. Le site, il n'y en a pas. Si vous voulez trouver des infos sur Tous en Bottes, il faut aller sur un site qui s'appelle BUECH. C'est la région où on est, BUECH, coopère actif. Tout se tient, BUECH, coopère actif au pluriel.com. Et là, on trouvera quelque chose, le programme de Tous en Bottes sur ce site-là.
Des petits conseils pour les visiteurs ?
Pour les visiteurs, écoutez, zéro déchet, que les gens soient contents d'être là, qu'ils soient très prudents parce que. Le même jour, dans le même village, il y a une autre activité encore, c'est une course en montagne avec des sportifs. Donc les gens soient très prudents avec leur voiture, on ne voudrait pas qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça va être un peu dur de se garer, mais on a prévu quand même des champs, etc. Il faudra suivre les panneaux et on reste courtois, mais tout se passera bien. Voilà. On attend beaucoup, beaucoup de gens.
Eh bien, Eddy, merci d'être venu nous parler donc de cette troisième édition de Tous en Bottes ou quatrième ?
C'est la troisième, normalement c'est tous les deux ans.
Oui, je sais, mais bon...
Mais l'année passée, il y avait des élections présidentielles, ce qui a fait un débat dans la COP, et patati et patata, procuration, pas procuration, donc pas de Tous en Bottes.
Voilà, eh bien, bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Hey, the bear.